With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hello, je suis Léa.
Et moi Mathilde.
On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care.
Je suis psychologue clinicienne.
Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va
et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très très heureuse d'accueillir Anna et Mathilde. Mais bon, Mathilde, vous la connaissez.
On se présente plus.
On se présente plus. Anna, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être au micro de Salut, ça va.
Merci de m'accueillir.
Bienvenue.
Il faut que je vous annonce que c'est mon premier podcast de toute ma vie.
Je suis trop honorée parce que tu as une voix à podcast.
On m'a toujours dit que j'avais une voix de téléphone rose, donc.
Bah écoute. Peut-être que cet épisode va être très chill, très sympa. Non, mais c'est vrai que la voix, c'est très important et c'est pour ça que je suis très contente de te recevoir. On est très contente. Mathilde, tu vas découvrir Anna, peut-être en même temps que certains de nos auditeurs, et ça, c'est beau. Et du coup, comment tu te présentes, toi, auprès des personnes qui ne te connaissent pas, tu vois, qui ne connaissent pas ton métier, qui ne sont pas sur
les réseaux sociaux ? Si tu sais même pas, si tu n'as pas Internet, par exemple, qu'est-ce que
pas
je fais ?
Pas les réseaux sociaux, genre tu as un Facebook, tu vois, ce genre de gens.
Je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, je suis lyonnaise, c'est très important dans mon identité. Et je suis créatrice de contenu, pour ne pas dire influenceuse, sur les réseaux depuis 10 ans. C'est ma passion, j'ai fait des études de communication pour... concrétiser cette passion et aujourd'hui j'en vis tous les jours et c'est génial, c'est la fête.
Vivre de sa passion, c'est sympa.
Oui.
Et alors toi tu dis je suis créatrice de contenu et vraiment les gens qui connaissent pas du tout, tu dis pas je travaille dans la com?
Ah non, j'ai lancé ce sujet un jour et la question était est-ce que quand tu as un mec que tu sens qu'il va pas être trop enclin à te comprendre, est-ce que tu dis je suis influenceuse ou quoi? Moi je dis même pas que je suis dans la com, je dis je suis étudiante et souvent ils creusent pas.
Ah ouais.
Parce que franchement, ouais. Non. J'avoue que créatrice de contenu, ça peut vraiment porter à confusion. Les gens ne comprennent
mais
pas forcément.
Quel contenu.
Je travaille sur les réseaux sociaux.
Ouais. Oui, voilà. Moi, je suis plutôt. Ouais, voilà. Je travaille dans la com, j'ai déjà dit.
Je travaille sur les ordinateurs.
Ouais, c'est typiquement
une réponse
très floue.
De petit enfant, tu sais.
Mais non, mais il y a des métiers comme ça. Bon, c'est vrai que toi, quand tu dis je suis psychologue, ça doit être.
Généralement, on sait à peu près ce que je fais.
Voilà.
Mais est-ce que les gens te racontent des problèmes?
Oui, plus...
Ça, c'est ouf.
Ouais, non, ça par contre... Mais oui, mais ça, c'est... Globalement, je trouve que ça relève le manque de tact des gens, tu vois. Comme quand tu dis à quelqu'un... Là, les gens m'ont dit, ouais, c'est vrai que quand quelqu'un me dit qu'il est kiné, je lui demande un massage. Peut-être que c'est quelque chose que
mais
vous
c'est
faites,
comme,
mais...
j'imagine, les médecins.
Ouais.
C'est au coin d'une... Écoute, Bernard,
c'est vrai que j'ai un peu mal à la gorge.
Tu sais pas trop ce que je pourrais prendre, là.
C'est un autre délire, quand même. C'est un peu plus intime que...
Ouais, tu vas pas te poser.
Oui, par contre, généralement, on parle pas du rhume. On peut aussi m'en parler, mais... ouais, non.
Il y a des métiers comme ça. C'est vrai que les métiers du web et les nouveaux métiers suscitent pas mal de questions, surtout sur les anciennes générations, parce qu'on se demande qu'est-ce que tu fais. Et du coup, c'est vrai qu'on se demandait si... Cette particularité, ton métier, tout ça, ça fait. Est-ce que c'est un frein pour toi dans tes relations sociales, dans le sens nouvelle relation, ou pas forcément?
C'est compliqué, c'est un peu à double tranchant, j'ai l'impression. J'avoue que du coup, plus j'en parle et plus je réfléchis à ça, et plus j'ai l'impression que d'un côté, non, parce que c'est de plus en plus accepté, c'est un peu un truc cool, et au final, si tu l'amènes bien, les gens, ils sont un peu curieux, et ça me crée toujours un sujet de conversation, et ça me gêne pas du tout d'en parler, d'expliquer aux gens et de les aider à comprendre. Mais il y a un peu le côté aussi où ça m'est arrivé encore samedi dernier où je suis en soirée, je rencontre des gens, je parle avec eux et s'ils sont vite du coup tu gagnes des millions, t'es millionnaire et du coup machin, ou alors un peu dans le jugement de c'est qui cette poufiasse, ou alors ça peut par exemple, moi je suis célibataire, je ne recherche pas l'amour mais il m'arrive d'avoir des interactions avec des hommes et je sens que c'est aussi un truc qui peut être soit freinant, soit qui peut susciter de l'intérêt et mal placé, quoi.
T'es parfois méfiante, tu vois, de l'intérêt que peuvent avoir les personnes, ou tu te dis que tu sauras gérer sur le moment?
J'ai cette palette parce que sinon j'ai l'impression qu'on devient parano de tout et tout le temps. Mais c'est vrai que je pense que c'est presque devenu un automatisme de... Je sens, mais je pense que toi aussi, entre guillemets, quand tu sens que la personne elle a un ton un peu différent, ou tu sens que c'est pas que de la bienveillance ou qu'il y a un truc un peu malsain, je le mets direct à l'arrière de ma tête et je sens que... ce sera pas une personne qui va rentrer dans ma vie et devenir la meilleure amie, tu vois. Mais la plupart du temps, j'essaie de pas être méfiante parce que je trouve que sinon, dans mon quotidien, ça me fatiguerait d'être tout le temps sur la défensive par rapport à ça, quoi.
Puis je pense que là, ça fait 10 ans du coup que t'es sur les réseaux. Je pense qu'en 10 ans, t'as dû apprendre aussi à repérer certains comportements et du coup à t'y adapter pour.
Ouais.
Mais après, c'est normal. Enfin, je veux dire que
bah, en fait, en même temps, oui, t'as raison, j'ai repéré, mais en même temps, vu que ça fait 10 ans, c'est aussi. Ça fait partie de moi, tu vois. J'ai l'impression que tout. Limite, j'ai l'impression que c'est un truc normal et que. Parce que c'est un truc normal.
Oui, bah, parce que tu réfléchis plus. Que tu... Ouais, voilà. c'est
et du coup, des fois, j'ai pas forcément la méfiance parce que j'ai l'impression que c'est comme être boulanger ou être. Facteur, quoi, tu vois.
Complètement. Non, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Ça fait tellement partie de ta vie, de tous les jours. Puis en plus, ça mêle à la fois tes passions privées. Enfin, tes passions privées. Tu vois, tu te connectes sur Instagram, tu regardes ton fil le matin. Enfin, souvent, c'est un peu le premier truc qu'on fait. Et tu dis pas, je suis en train de bosser, ou je rentre dans le cadre de mon travail, ou je rentre dans ma peau d'influenceuse. Pas du tout, tu vois, ça fait partie de toi.
Ouais.
Donc forcément, quand tu rencontres des gens... Mais moi, je trouve que quand même, ça... C'est pas que ça met un frein, mais en tout cas, tu fais face aux a priori des gens que toi-même, parfois, t'as oublié. Oui. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais du coup, moi, je trouve que ça, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a poussé à me faire, entre guillemets, une carapace de confiance en moi. J'ai confiance en moi, mais je pense que j'essaie de donner plus l'impression que j'ai encore plus confiance en moi pour que, de toute façon, si la personne en face de moi, elle trouve que c'est nul ce que je fais, bah tant pis pour elle, tu vois, mais...
Ça te glisse dessus.
Voilà, exactement. Next, parce que sinon, on s'en sort pas, quoi.
De toute façon, j'imagine que quand on est sur les réseaux exposés comme ça, à un moment donné, on est obligé de s'affranchir un peu du regard de l'autre. Enfin, sinon, ça devient... Bah, ça peut... On l'a vu récemment arriver, enfin ça peut ça peut détruire des vies.
Ouais.
Et toi, comment tu fais du coup aujourd'hui pour t'affranchir du regard de l'autre?
Bah écoute, je pensais que je l'avais enregistré en moi et que du coup, depuis 10 ans, du coup, c'était devenu un truc où je m'en foutais complètement. Et en grandissant, je sens que j'ai des jours, les jours où je suis un peu fatiguée ou que je suis un peu fragile, je sens qu'il y a des fois où je supporte pas de voir le moindre commentaire qui va... En fait, j'ai envie que les gens s'occupent de leur vie et ça m'énerve qu'on vienne se mêler. Là, par exemple, en ce moment, une critique qui me revient beaucoup, enfin qui revient le plus souvent, c'est que les gens ont l'impression que je ne mange pas assez de féculents. Donc, on me dit tous les jours, mange des féculents. Et c'est un truc où, dans un moment, quand je suis fatiguée et fragile, j'ai plus tendance à vouloir dire aux gens... encore une fois, on le répète tous les jours, mais c'est les réseaux sociaux, ça n'est pas la vraie vie. Prenez des pincettes, je vous montre 2 repas par jour. Donc, et en fait, on peut pas expliquer aux gens constamment que, certes, on a l'impression qu'on est amis et qu'on se connaît, mais on se connaît pas vraiment. Et surtout, on voit une partie de la vie des autres. Donc, quand je suis fragile et susceptible, j'essaie de poser mon téléphone et de pas trop écouter. Et puis après, encore une fois, oui, on en reçoit tellement. Moi, j'ai l'impression que quand c'est des trucs qui sont superficiels et qui sont pas fondés et tout, ça me glisse dessus. Comme les commentaires qu'on peut avoir sur YouTube quand on a tendance, par exemple, de vieux monsieur de 45 ans qui ne connaissent pas, tu vois, c'est pas ma cible, donc ça va pas me toucher. Par contre, ouais, quand c'est des critiques qui sont très fondées, où les filles m'écrivent des pavés de 50 lignes et où je sens qu'elles me connaissent et tout, c'est plus compliqué de s'affranchir. Et surtout, c'est compliqué d'avoir l'avis de Tartampion dès que tu ouvres ton téléphone. En effet, c'est quand même un truc qui est pas naturel, quoi.
Ouais, ben en fait, c'est faire la part des choses, parce que dans la vraie vie, ça ne se passe pas.
Exactement.
Hein, tu vois, même si tu peux avoir l'avis de tes potes et encore des gens qui sont proches de toi, qui s'inquiètent pour toi fondamentalement, mais on a du mal à avoir cette perspective de se dire que ce qu'on voit sur les réseaux n'est qu'un fragment de la réalité. Et encore, c'est hyper difficile et du coup nous quand on est dedans on a l'impression d'être d'avoir un flicage tu vois sur les moindres faits et gestes. Et est-ce que ça t'a déjà amené à modifier ta façon de montrer certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne t'es pas autorisé à montrer ou au contraire que tu as particulièrement montré, tu vois, justement parce que t'avais
alors je pense que ça m'a jamais je me suis jamais dit je vais montrer quelque chose pour prouver aux gens ou quoi, ça jamais. Mais des fois, c'est aussi, enfin, ça m'a appris à aussi, en grandissant, à vouloir être plus un exemple et à faire un peu attention. En effet, certes, moi, je veux être le plus authentique et naturel possible, mais je trouve que c'est aussi important. On parle sans dire qu'on veut éduquer les gens, mais je trouve qu'on parle à beaucoup de monde et c'est important de faire attention à ce qu'on montre et de pas, naturellement, je me montrerai pas dans ma vie intime ou en soirée à 4h du matin, tu vois. Mais il y a aussi des fois où je tempère un peu plus mon propos pour éviter, tu vois, mais je pense que c'est normal. Je réfléchis un peu plus à ce que je vais dire pour pas créer de drame inutile et pour préserver tout le monde, quoi. Mais par contre, par rapport au fait qu'en effet on a un flicage permanent et du coup on a un truc qui est pas naturel chez les gens, c'est d'avoir un avis permanent. J'ai vu une youtubeuse qui est un peu arrivée depuis pas longtemps et du coup qui a encore la fraîcheur de découvrir tout ça. Et qu'il y a déjà un truc que je trouve vrai, c'est qu'en même temps, on a ce côté-là qui est négatif, mais on a aussi le côté où on a potentiellement la vie positive de centaines de personnes tous les jours, ce que t'as pas dans un taf lambda où ton boss, il te dit pas tous les jours « Bravo, c'est top ce que t'as fait ». Nous, on a la chance d'avoir quand même des gens qui nous...
Ouais,
et on oublie un peu que c'est aussi... Des fois, moi, je prends ça pour acquis, mais c'est vrai que c'est fou. Mais
tu sais que moi, il y a un truc qui a changé ma vie par rapport à ça, c'est que, en fait, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais parfois, dans les demandes Instagram, quand tu n'as pas parlé avec la personne, avant de l'approuver, tu peux juste la lire vite fait avant d'y répondre. Et la personne ne voit pas forcément que c'est lu. Et avant, ça m'arrivait d'ouvrir, de lire, de faire « Oh, mignon !» et tout. Et dès que j'avais un truc négatif, de me dire « Mais... » Tu sais, de bloquer dessus et d'aller répondre à la personne négative alors que tu viens d'en lire 50 de positifs. Et en fait, bon, ça, on en a déjà parlé dans le podcast, mais psychologiquement, ça s'explique et je pense que tu pourras nous en parler après. Mais en fait, le fait de me dire « Je vais répondre à tous mes messages ou du moins genre à 20 ou 30 messages, peu importe qu'ils soient négatifs, positifs. » Mais en fait, ton regard et la façon dont tu abordes les choses est complètement différent parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de positifs.
Ouais.
Et c'est vraiment encourageant, tu vois, alors que si tu t'arrêtes sur les trucs négatifs...
Psychologiquement, c'est contre-productif et c'est de notre part... C'est se flageller tout seul de s'arrêter sur et de répondre. Ouais, parce que, mais je commence à faire comme toi depuis un moment, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais moi aussi, je vais, quand il y a un truc qui me fait plaisir, plutôt que de me dire, ah, trop chaud dans ma tête et de pas répondre, envoyer un truc pour dire merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et c'est vrai qu'au final, tu l'enregistres plus, je pense, que tu as du positif.
Ouais, tu l'as signé.
Mais de toute façon, ça, c'est assez naturel. C'est-à-dire que le cerveau, il va plus retenir le négatif que le positif parce que, vu qu'il est en permanence en recherche d'anticipation pour éviter toujours le pire, pour éviter le pire scénario, bah, le commentaire négatif, il peut l'assimiler comme quelque chose de dangereux, entre guillemets. Enfin, si je pousse.
Okay, une atteinte.
Donc, il va chercher à ce que ça ne se reproduise plus. Pourquoi ? Parce que lui, il veut éviter toutes les émotions un peu désagréables, tout ce qui peut te porter atteinte. Et du coup, bah, là, le commentaire négatif, en l'occurrence, il te porte atteinte. Donc, tu vas bloquer dessus parce que tu vas essayer aussi de comprendre pourquoi, etc., etc. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, des moments où tu es plus fragile ou tu es plus fatigué, on sait que, par exemple, quand on est plus fatigué, et puis, enfin, je veux dire, comme tout le monde, vous avez des fluctuations de l'humeur qui sont tout à fait normales, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours au top du top et c'est tout à fait normal. Il y a des jours où vous êtes moins bien et ces jours-là, on sait que nos émotions, elles conditionnent un peu la façon dont on voit les choses aussi. Et bah, les jours où je suis moins bien, où je me sens moins bien, où je suis un peu dans un bad mood, bah, je vais encore plus avoir tendance à repérer tout ce qui est commentaires négatifs, mauvais jugements, etc. Donc ça cumulé, dans les jours où vous n'êtes pas bien et en plus il y a le cerveau qui va plus repérer le négatif, j'imagine qu'en plus de ça, ça doit être des jours un peu plus compliqués pour vous.
Ouais, après je pense qu'il faut s'autoriser à juste avoir des, tu vois, comme tu dis, des bad moods.
Oui,
tout.
Complètement, mais ce qui est normal.
Se rendre compte en même temps de la chance qu'on a d'avoir, comme tu dis, un retour quasi immédiat sur le contenu qu'on produit. Je pense que c'est quelque chose qui est très particulier et je pense qu'on ne peut pas l'appréhender parce qu'en même temps, c'est tellement nouveau. On apprend avec ces métiers-là et là, on parle évidemment du métier d'influenceuse, de créatrice de contenu, mais dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, mais qui s'exposent sur les réseaux, etc., et qui sont donc dans la possibilité d'avoir aussi ce genre de remarques. Et je pense que c'est important d'en parler parce que le recul qu'il y a là-dessus, quand on n'y est pas habitué, je pense que c'est encore plus difficile. Parce que nous, ça fait partie du package quelque part. Alors que quand tu es quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, tu vois, professionnellement parlant, tu t'attends pas forcément à ce que ça arrive.
De toute façon, l'exposition, les réseaux de façon générale, c'est un peu qui tout double. Enfin, oui. T'as les deux extrêmes
ton
possible.
De positif et de... Oui, non, mais forcément. Mais justement, j'enchaîne avec le fait que toi, t'as grandi avec les réseaux, même si t'as toujours gardé un cercle social et une vie hors réseau, j'ai l'impression. Enfin, c'est l'impression que tu donnes pour quelqu'un qui te suit. Est-ce que c'est un choix réfléchi de faire une distinction entre les deux et de pas forcément, tout mêler?
Bah, pas vraiment. Et au final, j'ai l'impression quand même que... j'ai l'impression qu'il y a... pas mal de filles qui font comme moi ou de garçons, enfin pas mal d'influenceurs qui justement mettent vachement cette barrière entre limite leurs personnages réseaux sociaux et leur personne de la vraie vie. Moi, j'ai jamais fait cette distinction là, j'ai toujours dit ce que je pensais, montré ce que j'étais, ce que je faisais sans faire trop attention. Des fois, ça m'a un peu porté préjudice d'ailleurs, mais bref, ça a donné l'occasion aux gens de voir mon vrai quotidien et j'ai jamais fait trop de distinctions pour essayer de me préserver. J'ai jamais ressenti ce besoin là. Mais naturellement, peut-être parce que je suis lyonnaise et que du coup j'étais pas dans le milieu de tous les influenceurs parisiens et tout, tu vois, que où il y a beaucoup plus de gens qui se réunissent. J'ai évolué avec ma bande d'amis qui est complètement en réseau, à part Laure avec qui j'ai fait mes études, Siltonic, qui est une de mes meilleures amies et qui du coup est ma seule amie, ma vraie amie, qui est dans ce milieu-là. Et du coup, voilà, naturellement, mon cercle est resté mon cercle d'amis hors réseau. Et je sais plus où on voulait en venir, mais en tout cas, le
non,
fait
mais c'était savoir si c'était une, tu vois, une
volonté. C'est pas volontaire. Donc... Après, je suis contente parce que j'ai l'impression quand même que ça me préserve de, des fois, être trop, me prendre trop au sérieux ou donner trop d'importance à ce truc-là. J'ai pas envie d'avoir l'impression que parce que je suis dans ce milieu-là, je suis au-dessus des autres ou quoi. Et c'est un peu ce qui peut se passer quand on se monte un peu la tête et qu'on est beaucoup à C'est bien des fois de pouvoir échanger avec des gens qui font comme nous, c'est sûr. Mais je pense que l'effet de groupe des fois peut être un peu néfaste dans ce milieu-là. Donc je suis contente que mes amis me gardent les pieds sur terre, quoi.
Ouais, de trouver une sorte d'équilibre.
Puis c'est ta base. Ouais. Enfin, on a besoin d'une base à laquelle revenir, c'est hyper important. Ouais. Et c'est ta base et c'est sur cette base-là, j'imagine, que tu arrives à te ressourcer aussi. Ouais. Et à prendre du recul sur certaines choses. Ouais, et enfin, on a besoin d'une base de sécurité et de son cocon, en fait. Hein. Ouais. C'est hyper important.
Alors moi, je voulais revenir sur une période qui, pour moi, en tant qu'abonnée, en tant que fan, non, en tant que spectatrice, a marqué un tournant, tu vois, pour moi, dans ton contenu, dans ce que tu partages, c'est le coco, le Covid, et le premier confinement, surtout.
Le coco.
Ouais, non, mais je trouve que pour toi, ça... Alors, en tout cas, pour moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que ça a été un moment plutôt positif, en tout cas, une transition. Comment toi tu l'as vécu ? Tu avais cette image d'une personne qui sortait beaucoup, tu vois, avec beaucoup de liens sociaux. Et on a découvert une autre part de toi. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir épluché
un oignon peut-être.
Un petit oignon. Tu ne m'as pas fait pleurer, mais au contraire, t'as été très... enfin, c'était très inspirant. Donc, comment tu as vécu cette période, toi ?
C'est triste à dire parce que c'est quand même une belle catastrophe. Mais la période du premier confinement, en tout cas, après, je pense que je ne suis pas la seule. Ça a été, même si au début c'était un peu un choc et c'était cata parce qu'on n'était pas du tout psychologiquement prêt à ça, au final je pense que ça a fait du bien à plein de gens parce que moi ça, en tout cas ça m'a permis de faire une pause dans ma vie qui en effet comme je le dis était un peu extravagante. Je revenais d'un Erasmus où j'avais fait que sortir, certes je rencontrais plein de gens, je m'amusais beaucoup mais du coup je m'oubliais un peu et j'oubliais un peu ce que je voulais faire dans la vie, ce qui était important pour moi et je priorisais vraiment ma vie sociale et mes sorties, mes soirées, voilà. Et au final, du coup, de devoir faire une pause de tout ça, de me retrouver chez mes parents à la campagne, avec pour seul divertissement les réseaux sociaux et le sport, du coup, c'est là où j'ai découvert le sport. Ça m'a permis de me recentrer. En effet, du coup, j'ai découvert le sport, donc j'ai perdu beaucoup de poids pendant le premier confinement, ce qui m'a fait du bien. J'ai repris un peu ma santé en main parce que j'avoue que j'étais sur une pente un peu où je faisais des excès en tout genre, et surtout concernant l'alcool et les fast-foods, etc. Attention, nous ne sommes pas en train de dire que j'étais alcoolique, pas du tout.
Non,
mais en tout cas, j'étais une étudiante qui faisait beaucoup la fête. Et je pense que le Covid a mis une fin à cette ère d'étudiante et a ouvert l'ère dans laquelle je suis actuellement. Et où, en effet, je me sens beaucoup mieux parce que je trouve que d'avoir du temps, même le fait qu'à un moment, on ait eu les couvre-feux, les machins, et ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais être bien aussi avec moi-même, que je n'avais pas besoin d'être avec des gens tout le temps. Je pense qu'en effet, on me le dit beaucoup, enfin, ma communauté me le dit beaucoup. J'ai montré une autre facette de moi-même. Alors, on me reproche aussi des fois de ne plus être aussi fêtarde et de ne plus représenter les étudiants buveurs de bière de France.
Je ne savais pas que tu étais déléguée des étudiants de France.
Exactement, je suis dans le BDE France.
Waouh.
Non, voilà, du coup, bon... quand même laisser les gens grandir. Fait, je suis une vieille dame de 25 ans bientôt.
Non, c'est une transition, enfin je veux dire, assez naturelle entre tu vois, la vie d'étudiante et puis bah t'es chef d'entreprise, enfin t'es chef de ta propre entreprise, t'es entrepreneuse, donc je veux dire il y a aussi un train de vie qui est pas de tout repos. Je pense que ça va avec, mais est-ce que toi quand t'as commencé le sport c'était quoi réellement ta volonté? Est-ce que tu l'as fait en mode c'est un moyen de passer le temps ou est-ce qu'il y avait vraiment un lien entre ta santé physique et ta santé mentale?
Au début, je me suis un peu dit, ok, potentiellement on va être enfermé pendant un mois, je croyais encore que ça allait être trois semaines, un mois. Je me suis dit, vas-y, viens, j'utilise ces trois semaines, un mois pour faire des trucs que je fais pas dans la vie de tous les jours. Donc je vais essayer de faire du sport, de boire de l'eau, de lire des livres, d'être hyper actif sur les réseaux et tout, parce que je me dis, quitte à couper toute ma vie, autant que je rentabilise. Et je me suis rendu compte en fait que mentalement, le sport me faisait un bien fou. Et que j'habitais avec mon père et mon frère pendant le confinement, que si je me défoulais pas une heure en fin de journée tous les jours, j'allais peut-être en tuer un dans son sommeil, quoi. Donc j'avais besoin d'extérioriser. Et du coup, ça a été un cercle vertueux où je me suis rendu compte que physiquement, ça me faisait du bien, mentalement, ça me faisait du bien. Et du coup, ça a duré 2 mois. Et au bout des 2 mois, c'est une phrase qui est un peu chiante parce que souvent les gens disent que c'est frustrant, mais j'étais un peu devenue entre guillemets addict au sport. C'est un peu comme une drogue entre guillemets, c'est un truc qui te fait du bien, qui t'apporte, je sais plus le nom, des endorphines, hein. qu'est-ce que ça libère
Oui, il y a des endorphines, je sais pas si de la dopamine aussi, je suis pas je suis pas sûre de moi là.
Enfin, en tout cas, c'est un truc
en tout cas ça devient une habitude en fait. C'est ton cerveau, il est conditionné et ça devient une habitude pour lui.
Ça fait du bien quoi. Donc quand je pouvais plus, c'est un peu la vie qui m'a rappelé qu'il n'y avait pas que pour avoir du plaisir, il n'y avait pas que sortir avec ses amis dans la vie, il y avait plein d'autres choses. Je trouve que je commençais un peu à tourner un peu en rond sur les réseaux sociaux, ma ligne édito elle était un peu floue quoi, je savais plus trop où j'allais. Et du coup ça m'a permis de pouvoir parler de nouveaux trucs que je connaissais pas bien avant, que maintenant je maîtrise, et ça m'a ouvert un peu un nouveau, plein de nouvelles opportunités, donc je suis grave contente.
Et tu trouves que ça a été bien accueilli toi sur... dans ton contenu, dans la façon dont... Ouais.
Bah franchement, j'ai eu de la chance. Je pense que... Je sais pas pourquoi les gens, ils ont été tolérants avec moi par rapport à ça.
Mais parce que c'était vrai, hein.
Ouais,
enfin, mais... Tu vois ce que je veux dire, on sentait que c'était pas fake et que tu l'incarnais vraiment parce que ça a été une vraie transition pour toi. Peut-être moi, dans ma réalité, tu vois, de meuf qui est maman, voilà, je te suivais moins avant. Enfin, je suivais un peu moins ton contenu. Et depuis cette transition... Je le suis beaucoup plus parce que c'est plus proche de ma réalité. Et de toute façon, aujourd'hui, t'as tellement d'offres sur les réseaux sociaux. Et on l'invite souvent dans ce podcast, on le rappelle, que c'est important de faire du tri dans le contenu qu'on suit pour qu'il nous tire vers le haut et que, tu vois, il n'y ait pas ce truc de culpabilité. Et toi, t'es pas du tout là-dedans. T'es dans un truc très authentique, très vrai, tu vois.
Bah, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Merci. Mais j'avoue qu'il y a des fois, je reçois des fois des DM. J'ai eu une période un peu... Enfin, pas compliquée, mais où... Quand les gens ont compris que maintenant mon contenu c'était ça, après je suis pas influenceuse, je suis pas une fit girl, je parle pas que de ça toute la journée, mais je montre mon quotidien et ça fait une partie de mon quotidien. Et je recevais des messages de filles qui me disaient bah je suis désolée, je t'apprécie, mais ça me culpabilise trop de devoir aller au sport 3 fois par semaine et moi je le fais pas et je me sens plus à l'aise, ce que je comprends totalement, et donc je vais t'unfollow. Je leur répondais toujours en disant bah au revoir, c'est dommage, mais je comprends et ça me fait de la peine parce que justement j'essaie de. Enfin, ça me fait de la peine. Ça me. M'affecte parce que j'essaie de faire les choses au mieux possible pour que les gens ils se sentent bien et qu'ils se sentent pas jugés ou que je donne pas l'impression que si tu fais pas ce que je fais t'es une mauvaise personne ou que ton quotidien est nul. Au contraire, c'est tout ce que je veux fuir, mais je peux comprendre que aussi les gens ils ont leur faiblesse et leur insécurité quoi.
Tu peux pas gérer la culpabilité des gens.
Voilà, c'est ça. Enfin...
Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça t'appartient pas pour le coup. C'est la personne, elle t'envoie sa réalité à elle. Et sa réalité à elle, c'est que là, le contenu que tu proposes, ça la culpabilise elle, mais c'est pas toi qui va culpabiliser la personne. Après, c'est vrai que je pense que certaines personnes sur les réseaux ont du mal à faire la distinction entre ce qui leur appartient et ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Ah, elle dit ça parce que moi, je ne le fais pas » ou « Elle conseille ça parce que... »
Après, ça peut se comprendre, et comme tu dis...
Et c'est OK, mais c'est vrai que, en tout cas, ça ne t'appartient pas. Et souvent, mais c'est ce qu'on voit dans les reproches. Selon le reproche, comment il est fait, etc., il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur propre réalité et qui vont projeter des choses d'eux, sur la personne en face d'eux, et les tenir responsables. Bien évidemment, tu n'étais pas responsable, en tout cas, du fait que la personne fasse...
Tu ne peux pas, quand tu délivres un message... à autant de personnes, mais par contre, je pense réellement que l'environnement que tu te crées sur les réseaux sociaux est important et que moi, dernièrement, j'ai unfollow beaucoup de personnes, notamment parce que j'évolue de ouf dans mon rapport au corps. Et bah, le corps sur les réseaux, c'est quand même omniprésent, tu vois. Et justement, par rapport à ta consommation personnelle, est-ce que toi, ça peut des fois impacter ta confiance en toi ou augmenter ton anxiété ou tu vois le on va dire l'environnement enfin tes abonnements, des photos, peu importe, tu vois ce qui défile.
Je me pose pas trop la question, du coup ça doit vouloir dire que pas vraiment. Après j'avoue par exemple que TikTok, c'est j'y passe 2 heures par jour, désolé, mais c'est la réalité. Et du coup, ça peut en effet impacter ma vision des choses et de ce qu'il faut faire, pas faire, de ma vision de mon corps et tout. Mais je pense que le fait que je sois directement à l'intérieur de ça et je sais comment ça se passe, je sais comment on traite nos photos, je sais que parfois, je sais comment un angle peut changer une photo, comment un filtre, tu vois, je sais que c'est pas forcément vrai ce qu'on voit. Et du coup, j'arrive à prendre du recul en me disant, ok, cette meuf-là, elle est super fraîche et j'aimerais être comme elle, mais en même temps, je sais que ça se trouve, il y a un truc qui va pas dans son quotidien qui fait que sa vie, elle est pas parfaite. Ou alors, tu vois, j'arrive à prendre le recul en me disant, ce que je vois, c'est pas, encore une fois, ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas 100% de la réalité des gens. Comme quand tu parles à une personne dans la rue, ce qu'elle te dit, c'est pas 100% de sa réalité. Et il faut toujours, du coup, prendre du recul par rapport à ce que les autres nous projettent. Après, en effet, s'il y a un contenu que j'aime pas, bah, je le regarde pas naturellement. C'est ce qu'on est habitué à dire de toute façon.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'on comprend pas forcément pourquoi des fois on reçoit des commentaires qui sont abjects. C'est que, les amis, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le contenu de quelqu'un, il faut juste arrêter de le regarder. Ouais. C'est très très simple.
Et par rapport à, justement, tu vois, plus l'aspect business et tout, est-ce que le rapport à l'engagement, au like, aux vues, est-ce que c'est quelque chose qui peut parfois t'amener du stress ou...
Ouais, bah ça oui, par contre, complètement. Ouais. Je me compare moins au côté perso, mais au côté pro, en effet, j'en ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs. Je me compare et je trouve que c'est très compliqué de pas le faire, mais j'essaie de le faire du coup de plus en plus d'une façon saine, en m'inspirant plutôt qu'en étant en crise d'angoisse, justement. Ça m'a... En effet, je regarde mes stats et je regarde le taux d'engagement et le machin et tout ça. De toute façon, je trouve que c'est un peu obligé de le faire quand même sans
comme dépendre pour de ça. Business,
exactement. Oui. Ça reste une entreprise, donc il faut quand même savoir ce qui s'y passe. Mais du coup, je trouve que il faut réussir à s'en détacher au maximum. Je travaille encore dessus et surtout à se dire cette personne que j'aime bien et que j'admire, elle a des stats qui sont différents des miens, peut-être meilleurs. Et ben, est-ce que je dois me dire que je suis nulle ? Non, je dois me dire que j'ai envie, moi aussi, de progresser et d'augmenter ou de faire les choses différemment pour être pour améliorer ce que j'ai envie d'améliorer. Mais j'essaie de plus en plus de pas faire de la comparaison angoissante et de me dire si je suis pas comme ça, c'est que je suis nulle, parce que c'est pas vrai. Ouais.
Mais c'est terrible de devoir se détacher de ça, parce que c'est ce qu'on nous apprend depuis toujours. Enfin, je veux dire, très tôt, on est très vite comparé, que ce soit à l'école ou voilà, où il y a des notes, et si tu as une note moins bien, ça veut dire que tu es moins bien qu'eux. Donc là, en plus, ça reste des chiffres, parce que du coup, on parle de statistiques, donc ça reste des chiffres. Puis on peut être comparé même à nos camarades, à nos dans la fratrie, quand il y a des fratries, c'est possible, tu as pas fait comme ta sœur, ou tu fais pas comme ton frère, ou regarde ta sœur, regarde ton frère. Et c'est vrai que cette comparaison-là, elle arrive très 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 tôt dans la vie de chaque individu, et c'est très ancré, et du coup on grandit adulte avec ce truc-là de il faut être meilleur qu'eux, parce qu'on n'arrive pas à se dire que sa propre valeur réside en fait dans juste qui on est, dans
le regard,
nos qualités
portes,
mais aussi nos défauts et dans notre différence. Et même si effectivement tu trouveras toujours des stats meilleures que toi, parce que on peut toujours trouver, mais par contre ce qui fait qui tu es, c'est ton contenu. Exactement. Ce que tu proposes, et c'est ces différences là qui sont importantes. Mais c'est vrai que c'est difficile à accueillir, et la comparaison c'est très très ancré. Et moi, je sais que je reçois beaucoup de messages, et je reçois aussi beaucoup de personnes qui souffrent du fait de se comparer. Et
c'est des situations, mais c'est à l'origine de plein de mots, en fait, je pense, et on devrait tous faire un travail sur ça.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, parce que oui, en effet, ça déclenche des jalousies, ça déclenche surtout dans notre milieu. Je trouve qu'au final, on se compare énormément, et comme tu dis, il y a énormément de propositions, on est beaucoup. Il y a de la place pour tout le monde en soi, donc ce serait bien qu'on soit dans le monde des bisounours, c'est qu'il y ait plus de bienveillance.
Non, mais un peu de sororité. Ça, c'est une vraie question, mais j'ai l'impression quand même que on est pas mal dans un milieu féminin, quand même, je trouve, influenceuse, tout ça. Mais au-delà de ça, même en général, sans parler de la particularité de nos business, mais entre femmes, parfois c'est difficile d'être dans cette, tu vois, sororité, parce que c'est tellement difficile, je pense, d'exister en tant que femme. Et que, tu vois, on en parlait hier avec Sam sur les personnages dans les films. On s'éparpille un peu, mais c'est important pour moi, tu vois, c'est un sujet trop important. Dans un film, pour qu'une meuf, elle soit remarquable, il faut qu'elle fasse des trucs de malade. Genre, il faut qu'elle ait un personnage de ouf, qu'elle gère des trucs de fou, qu'elle ait un caractère hyper badass, ou voilà, que ce soit vraiment quelqu'un de marquant. Alors que t'as plein de personnages mecs qui sont beaucoup moins impressionnants et voilà qui font tout autant partie du tu vois du décor, et j'ai l'impression qu'on est on s'en passe, enfin notre vie n'est pas un film, c'est une bonne représentation de la culture tu vois populaire, de se dire que dans la vie, pour exister en tant que femme, et encore plus quand t'es entrepreneur, même sans faire de comparaison, mais que tu vois que tu sors d'un milieu qui est quand même hyper stigmatisé et tout, le web, l'influence et tout, de devoir exister en tant que femme, t'as ce truc là je trouve de te dire il faut que j'y mette deux fois plus de travail, deux fois plus de revendications, tu vois, il y a un truc je trouve en tant que femme.
Oui, puis il y a une rivalité entre femmes qui est instaurée très très tôt aussi à cause du patriarcat, enfin concrètement déjà parce que très vite une femme existe dans les yeux d'un homme, enfin c'est ce qu'on dit, je dis pas que, attention, je dis pas que c'est ce qu'il faut, enfin c'est pas faut pas que ce soit le cas, mais je dis que c'est l'injonction qu'on dit aux petites filles et aux femmes qui grandissent très tôt, tu vas exister dans les yeux d'un homme, il faut que tu sois désirable et belle dans les yeux d'un homme, et puis que tu vas accomplir ses désirs, mais du coup t'es forcément
Il faut que tu sois
en rivalité avec toutes les autres femmes qui peuvent exister dans son regard à lui, et de fait il y a une rivalité qui est, mais d'ailleurs une rivalité que l'on voit vite même entre mère-fille. La mère qui peut prendre de l'âge et qui vieillit, la fille qui est du coup plus jeune et plus fraîche entre guillemets, il y a cette rivalité là qu'on voit très vite, très tôt, et donc même entre nous, même parfois entre copines, on est plus facilement dans le jugement et on se sent plus vite invalidé et plus vite en compétition avec alors que c'est vrai que les mecs entre eux, beaucoup moins.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ça évolue, tu vois, je me dis qu'on est quand même une des générations où de plus en plus
oui, heureusement ça évolue,
voilà. Mais je suis d'accord avec cette idée où on a l'impression qu'on a toujours plus à prouver.
En vrai, je trouve que peut-être que je me trompe, mais je trouve que dans notre milieu, en tout cas moi dans l'influence lifestyle, je trouve que c'est l'un des rares milieux où la femme a quand même une place plus, enfin je trouve qu'on a plus d'aisance à être acceptée, il y a beaucoup moins d'hommes qui réussissent
Dans le lifestyle complet, complet, mais parce que c'est associé c'est connoté à un milieu féminin. Regarde les influenceuses dans l'humour. Vois ce que je veux dire ? Dès que tu touches à des milieux sont connotés masculins, enfin nous, oui, bien sûr, ils sont trop.
Après, lifestyle, ça reste un peu large, mais c'est pas parce que beauté là, c'est un autre délire. Ouais. Lifestyle, c'est un peu l'entre-deux, même si ça veut tout et rien dire. Mais oui, en effet, c'est vrai que c'est quand même connoté féminin, donc au final.
Mais tu vois, dans les milieux, genre, voilà, humour, enfin, des gameuses, tu vois, c'est.
Oui, c'est très vite sexualisé en plus, les gameuses, c'est
complètement,
cata.
Complètement.
Mais parce qu'en plus, c'est terrible, hein, mais les femmes sont d'abord regardées sur leur apparence. Sur l'apparence physique.
Ouais.
C'est d'abord ça qu'on va mettre en avant, alors que c'est pas du tout forcément le cas.
Ouais, moi, du coup, c'est un truc que j'essaie de passer aussi dans mon... Désolée, je ramène ma poire, mais j'essaie de le transmettre sans le crier tous les jours, mais que tu peux exister sans avoir d'homme à tes côtés, sans être à travers les yeux d'un homme, sans... tu vois, tu peux être indépendante et être heureuse, réussir ta vie, et que c'est pas du tout la présence d'un homme dans ta vie qui va faire que tu vas être... validé, quoi. C'est pas du tout l'homme qui fait la validation.
Ça te rajoute pas de la valeur.
Ouais.
Mais voilà, non, absolument pas, quoi.
C'est ça. Et pourtant, tu vois, mais c'est clair que tu t'en parles dans tes contenus et même sans matraquer le truc, mais juste par ton lifestyle, en fait. Et par toi, parce que je pense que tu l'incarnes complètement. Et c'est hyper important. Je voulais revenir sur la partie, justement, entrepreneuriale, le fait d'être son propre patron, tout ça. C'est un rythme de vie qui est quand même différent. Comment, toi, tu vis le fait de pas avoir de patron ?
Ça tombe bien parce que je te jure, il y a des côtés qui sont négatifs, mais là je te jure, ça fait 2-3 mois. J'ai fini mes études en juin. Et du coup, depuis toute ma vie, je gérais et les réseaux, l'influence et les études. Et je me suis toujours dit que je trouvais ça normal, que c'était cool et que bon, ça allait, quoi. Et en fait, depuis que j'ai fini mes études et que je fais que ça, je trouve que tous les matins, je me dis, mais j'ai trop de chance. Je trouve ça incroyable C'est moi qui décide ce que je vais faire, et sans dire que je me lève à 14h tous les jours et que je me la touche, pas du tout. Non. Et je suis fatiguée, et je travaille. Mais c'est la liberté, vraiment. Et je sais que si j'ai un truc que je fais mal, c'est moi-même qui vais m'engueuler. C'est pas un mec qui est payé 10 fois plus que moi, qui va me mettre une rousse. C'est moi, je vais m'en vouloir à moi-même. C'est je vais où je veux aller, je fais que ce que je veux faire. Je trouve ça incroyable, je trouve ça vraiment génial et je suis trop contente. Et du coup, ça me donne, ce que je disais à Léa avant que nous passions en live, j'ai envie de plus en plus... même si ça fait un moment, de quoi qu'il arrive, même si j'arrête d'être influenceuse, de rester mon propre patron, de monter mes entreprises, de faire autre chose, mais de dépendre que de moi-même parce que j'ai
mais je pense que quand il goûte
c'est pas possible
quand il goûte et que tu sens que tu es fait pour ça parce qu'il y a aussi des côtés plus difficiles dans l'entrepreneuriat mais quand tu goûtes à cette liberté de gérer ton planning et que profondément dans tes valeurs et dans ce qui est important pour toi et dans ta façon de faire ça match, ça y répond complètement t'as plus aucune raison de vouloir revenir à un modèle plus contraignant entre guillemets.
Après, oui, en effet, comme tu dis, ça dépend des profils. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir un cadre et de. Mais pas aussi parce que là, on parle d'un truc qui est. Un peu, pour moi, en tout cas, c'est un peu naturel ce que je fais et c'est un truc qui est vraiment passionnant et qui est une habitude. Et du coup, j'ai encore plus l'impression que.
C'est complètement aligné avec toi et ça répond à des valeurs profondes. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être complètement insécurisées avec cette idée-là aussi et qui vont beaucoup plus s'épanouir en ayant un cadre ou des directives claires. Mais parce qu'à l'inverse, ça va aussi répondre à des valeurs chez elles. Et du coup, elles seront alignées dans ce truc-là. Et je pense que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat et comme tout le monde n'est pas fait pour le salariat. Et je pense qu'il en faut, comme tu le dis.
Oui, complètement. Mais il y a un truc qui est différent, je pense, quand t'es entrepreneur, de toute façon, t'as une vie qui est complètement différente, même dans ton rapport au travail, dans ton rapport aux heures qui n'en sont souvent pas. Justement, tu comptes plus trop. Mais tu as un rapport à la productivité aussi qui est différent. Comment toi tu gères ça, le fait tu vois, de te lever justement sans avoir ce cadre, ces tâches qui seraient peut-être imposées par un supérieur? Comment tu t'organises et comment tu le vis?
Ouais, c'est un truc qui peut être compliqué. J'ai eu une période, quand j'ai fini mes études, l'été là, ça a été un peu compliqué. Parce que du coup, j'étais un peu en mode, ok, donc maintenant tout mon temps, il est dédié à ça. Je peux faire plein de trucs du coup, mais par où je commence? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je me mette des obligations? Mais dans ce cas-là, est-ce que je resterai aussi spontanée? J'avais un peu du mal à trouver mon rythme. J'ai eu de la chance, du coup, vu que c'est un truc que je pense qui est naturel en moi. Ça a pris du temps à se mettre en place, mais ça s'est mis en place. Et en plus, je suis très bien entourée. Je suis avec mon agent Lisa qui travaille avec moi au quotidien et qui est sur la même longueur d'onde que moi. J'ai trouvé du coup ce rythme-là où je sais que en chaque début de semaine, je me fais un point où je sais les OP que je vais avoir, les collaborations avec des marques que je vais avoir à gérer. Je sais le temps que je vais accorder au brainstorming, à la veille, aux trucs dont j'ai besoin pour me ressourcer, pour ma créativité et tout, l'inspiration. Le temps que je vais dédier à... J'essaie de répartir du temps pour toutes les tâches et je m'organise moi-même. Et comme tu le dis après, c'est un peu dur de... On me dit des fois, mais tu, par exemple, tu travailles combien d'heures par semaine comparé à un mec qui est employé dans une boîte et tout. Je trouve que c'est indéfinissable parce que est-ce que être sur mon téléphone à minuit et écrire à mon agent et faire des tableaux sur Pinterest, c'est du travail? Je vais me dire que non, mais en même temps, ça fait partie. Est-ce que le montage, quand je finis à minuit le vendredi soir, est-ce que... Des fois, j'ai du mal à définir des heures et à me dire...
Est-ce que tu t'en veux quand est-ce qu'il y a des jours où c'est plus compliqué, où tu te dis j'ai pas fait assez, ou tu vois, cette productivité-là, est-ce que quand tu vois, par exemple, d'autres contenus, tu te dis, ouais, viens, ils font vachement de trucs. Tu vois, ce côté-là qui peut être difficile quand t'es seul et que t'as pas, en fait, de, justement, de cadre où tu te dis, bon, j'ai rendu mon travail, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois.
Ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire. J'essaie d'être grave dans la tolérance avec ça envers moi-même. Parce que sinon, je sens que c'est un truc où tu peux tous les jours te dire que t'as pas fait assez, que t'es pas assez productif et que t'es pas assez fort. Du coup, j'essaye de me mettre des objectifs qui sont atteignables et de les atteindre et d'écouter aussi ce que j'ai envie de faire. Mais en effet, oui, ça m'arrive de me dire, comme tout le monde, elle ou un tel a posté 7 photos sur Insta la semaine dernière, moi j'en ai posté une. Est-ce que ça veut dire que je suis moins bonne? Est-ce que... Parce qu'elle, elle a une entreprise. Ouais. Encore la comparaison. Mais j'ai pas, moi, j'ai pas 12 entreprises. Moi, j'ai pas, tu vois. Et, et j'essaye encore une fois de me dire plutôt, j'ai envie de faire ça. Donc, si je ressens ça, c'est que objectif. J'ai envie de le faire. C'est un objectif, tu vois. Et chaque chose en son temps. Et on a de la chance aussi, le fait qu'on soit notre propre boss. J'ai de la chance de pouvoir me dire, ok, ça, si je veux l'atteindre dans 6 mois, ça prendra 6 mois, c'est pas grave. Et j'ai pas un mec qui me dit au-dessus, ou une femme, qui me dit, t'as 3 semaines pour le faire, sinon, t'es viré.
Mais ce qui pose la question des objectifs et le côté essentiel de se cadrer avec des objectifs, comme tu dis, qui sont vraiment précis, qui sont vraiment atteignables, réalistes, avec une limite de temps, parce que c'est ça qui engage la motivation et qui engage l'action derrière et qui fait que tu arrives à proposer tout ce que tu proposes aujourd'hui. Mais moi, c'est vrai que j'avais une question plus au niveau de la reconnaissance, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance. Et alors là, pour le coup, quel que soit le métier qu'on fait, quel que soit le profil qu'on a, c'est un besoin qui est fondamental, qui est hyper important pour sur notre construction, etc. Et toi, aujourd'hui, voilà, la reconnaissance dans ton travail, tu la trouves où ?
Il y a un truc qui est différent depuis quelques mois, quelques semaines. C'est que donc j'ai toujours eu, comme on en parlait, un peu une chance quand on est exposé, des messages de gens qui... Bon, il y a le négatif, mais aussi du coup les gens qui te disent que tu es très drôle ou tu es très belle ou merci beaucoup pour ça, ou tu vois, donc ça, ça m'apportait déjà beaucoup. Et là, je suis contente parce que depuis un moment, j'ai des messages de gens qui, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, qui me disent merci, ton contenu m'apporte au quotidien et me motive et m'aide à évoluer. Et tu m'inspires et tout. Le fait d'inspirer les gens, c'est un truc qui est énorme pour moi parce que je me nourris beaucoup des gens qui m'inspirent sur les réseaux. Et du coup, voilà, ou qui me disent dans ta façon de monter tes vidéos et tout, on voit que t'es là où t'as envie d'être et que tu fais ce qui te plaît vraiment, quoi. Et ça, c'est ce qui me pousse le plus à avancer, c'est que les gens, ma communauté qui, du coup, depuis 10 ans, après ils sont pas tous arrivés à 10 ans, mais me connaissent bien, sentent et me communiquent le fait que j'ai l'air d'être bien où je suis. Ça me réconforte énormément et ça me pousse à avancer dans ma direction, en tout cas.
Ça met en lien le fait qu'on retrouve souvent la reconnaissance et on va souvent la chercher chez les autres.
Exactement.
Donc là, c'est ce que tu dis, hein, c'est que finalement, tu arrives à retrouver de la reconnaissance à travers les commentaires positifs, etc.
Est-ce que j'en trouve ailleurs,
justement, oui, je te demandais ça, donc, mais ce qui est normal, enfin, avoir l'approbation aussi, des autres, etc., c'est hyper important.
Il faut trouver la distance nécessaire aussi, parce que si tu dépends que de l'approbation, surtout dans ce milieu-là, si tu dépends que de l'approbation des autres,
c'est ça.
Ta santé mentale, elle dépend de gens qui pas vraiment, quoi, tu vois.
C'est ce que j'allais te demander, c'est que bon, quand on a de la reconnaissance de gens qui sont très proches de nous, bah, ça nourrit beaucoup plus que forcément des gens qu'on connaît peu. Est-ce que toi aujourd'hui, est-ce que tu arrives à te donner aussi de la reconnaissance,
être fière de
toi-même,
ouais.
Voilà, être fière de toi, être contente de ce que tu fais.
Au niveau du travail, oui, parce que encore une fois, je sais pas. Après, c'est un truc qui s'explique pas et je peux pas l'expliquer, mais je trouve que, je sais pas, je me sens beaucoup mieux. Et on a fait le bilan là, hier, j'étais à Paris, on faisait le bilan avec mon agent de l'année. En janvier 2021 comparé à janvier 2022, je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise dans ma façon de créer du contenu, dans ma façon de collaborer avec des marques et tout. Je suis contente de ce que je fais vraiment. Et on peut avoir, vu que ça fait 10 ans, je pouvais avoir tendance à me perdre un peu dans ce que je faisais. Là, je suis foncièrement sans avoir l'avis des autres. Quand je clique sur exporter après avoir monté une vidéo, je suis contente de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est génial. Et je trouve aussi ma fierté et ma reconnaissance dans le sport, encore une fois, parce que c'est un truc, quelque chose qui est bon pour moi, mais qui parfois peut être un peu dur. La régularité, elle peut être dure à tenir ou quoi. Et j'arrive à le faire et du coup, ça, et à progresser. Et c'est un truc qui m'apporte beaucoup de fierté, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je continue, parce que ça me fait du bien psychologiquement, quoi.
Du coup, tu es fière, tu peux dire que tu es fière aujourd'hui de la femme que tu es.
c'est pas facile tous les jours, mais ça va.
Non, mais c'est hyper important.
C'est normal que ce soit ça.
De se dire qu'on est fier de soi.
Ouais,
et tu sais qu'en tant que maman, là, c'est un truc hyper important depuis que Gaspard il est né. On lui dit, on essaie de lui dire tu peux être fier de toi. Plutôt que juste de dire je suis fier de toi, ou tu vois, quand il t'amène un dessin et tout, en mode ah là là, mon chéri, c'est beau et tout. Plutôt que de dire ça, et c'est hyper tentant, et bien sûr que des fois j'ai envie de lui dire là là, t'as créé une merveille, alors qu'il a vraiment gribouillé sur. Tu vois. Mais le fait de lui dire alors qu'est-ce que t'as voulu dessiner, qu'est-ce que t'as voulu faire, quelle couleur t'as utilisé et tout, de s'intéresser à l'autre pour que lui développe sa confiance, tu vois.
Parce que je trouve que des fois, dans notre génération peut-être, ou dans la société en général, on confond vite le fait d'être fier de soi et le fait d'être imbu de soi-même, ou
arrogant,
tu vois, arrogant, de dire elle se la raconte. Et je trouve que du coup, les gens ont tendance à pas avoir envie de dire je suis contente de ce que j'ai fait et je trouve que c'est bien ce que j'ai fait, ou je suis fière de moi, pour pas avoir l'air arrogant. Et c'est dommage.
Fou, hein. C'est très français, on a un gros problème avec la réussite.
Ouais, voilà. Mais même le tu sais, genre des figures genre Narcisse et tout, qui se noient dans son reflet et tout. Quand t'étudies tous ces mythes-là qui sont ressassés d'époque en époque, etc., tu te rends compte que c'est pas du tout représenté de la bonne manière, et qu'au contraire, je veux dire, l'amour de soi, et on en parle, c'est fondamental. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui aujourd'hui engendre de la violence, du malheur, de la discrimination, du manque de tolérance, etc., c'est un manque d'amour. Mais sans partir dans les trucs spirituels et tout, l'amour profond de qui tu es, de tes moments plus difficiles, de tes phases plus sombres, de tes lumières, de tes qualités, de toi. Et en fait, à partir du moment où toi tu n'es pas en amour pour toi-même, comment tu peux en donner aux autres? Tu vois, c'est ça, pour moi c'est vraiment ce truc là de se dire mais aimez-vous,
disons qu'on est des systèmes
quoi.
Des réservoirs d'énergie, et que tu vas pouvoir en donner aux autres, mais tu vas vite être à plat. en fait. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça rentre. Il va falloir que tu trouves le moyen de te ressourcer. Mais l'amour de soi, c'est vrai qu'il est forcément plus compliqué à avoir et à construire quand, à la base, ça réside aussi dans la valeur qu'on t'a donnée quand t'étais bébé, etc. Et tout ça. Après, heureusement, et les choses sont pas complètement irréversibles. C'est-à-dire que.
C'est horrible. T'as eu une enfance pourrie, tu veux pas.
Voilà. Après, c'est que ça se cultive.
Il n'y a pas de manuel de comment s'accepter, s'aimer, être fier de soi, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, je pense, de savoir par où commencer et tout. C'est un truc, un process qui se fait.
Mais tu vois, s'inspirer. Tu te dis, moi je m'inspire. Tu ne trouves pas que quand tu t'inspires, quand tu consommes du contenu, ou même des livres, ou même des podcasts, ou de personnes qui t'inspirent, tu ressors avec ce truc de te dire, waouh, ça me donne envie pour moi d'appliquer dans ma vie et de me sentir alignée Et je pense que c'est une super première marche de se sentir inspiré par des personnes qui cultivent cet amour d'eux-mêmes ou cette créativité ou peu importe ce qui est important pour toi, tu vois. Mais de te dire justement, ça m'aide au quotidien pour moi l'appliquer à ma vie sans forcément, tu vois, plagier, copier la façon dont les gens vivent les choses. Mais je trouve que ce côté ressource, enfin nous, c'est vraiment quelque chose qu'on partage beaucoup dans le podcast. Est-ce que toi, tu as justement des outils, des ressources, tu vois, quand tu as des moments de moins bien par rapport à ta santé mentale, qu'est-ce qui t'inspire justement ?
Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée voir de psy. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que souvent on a après ça va mieux, j'ai l'impression, mais moi en tout cas j'ai toujours été après ma mère m'emmenait voir des psys quand j'étais plus jeune et elle a jamais rendu ça tabou. On a un peu l'image de les psys c'est quand tu es en dépression nerveuse et que tu vas très mal alors que c'est pas vrai du tout.
C'est que c'est un peu tard, il faut c'est mieux de venir avant.
Donc des fois depuis un moment je me dis que ce serait bien que je fasse cette démarche pour faire un point sur ma santé mentale et être sûr que justement je peux être au maximum. Mais quand j'ai des phases de moins bien, après, comme on le disait, moi, j'ai besoin de beaucoup de mes proches quand même. Donc, j'aime parler avec ma mère qui, elle, est beaucoup dans le développement personnel, justement, et qui aime bien parler longtemps de comment tu vas et de trouver des trucs pour débloquer ce qui ne va pas. J'ai aussi beaucoup besoin de me ressourcer toute seule, donc j'aime bien passer du temps seule, écouter de la musique, marcher, écouter des podcasts. Encore une fois, je trouve que quand je ne vais pas bien, me nourrir de choses qui vont bien ou qui me donne envie d'aller bien, il faut accepter tes sentiments négatifs, il faut accepter que ça ne va pas des fois. Mais du coup, quand j'ai bien été mal, j'ai envie de me ressourcer de trucs positifs. Et encore une fois, j'ai l'impression vraiment d'être Thibaut in shape. Mais encore une fois, le sport, quand je vais mal, ça me fait du bien. J'ai l'impression que je me nettoie d'un truc et je me réveille aussi. Voilà.
C'est une manière d'évacuer.
Exactement, d'évacuer.
C'est la enfin, chacun a ses types, met en place des choses. Que toi, c'est le sport. Il y a d'autres personnes qui vont trouver leur inspiration dans d'autres choses. Toi, c'est le sport et c'est OK, sans être
Thibaut. La musique aussi, je me rends compte que l'art, un peu.
Mais la peinture et tout. Oui, je me souviens que tu avais expérimenté la peinture.
J'ai peint pendant le... J'ai eu le Covid et j'ai peint. Et après j'essayais vraiment de me dire allez, trouve de la spiritualité dans cette peinture, ça m'a détendu. Mais bon, après de nettoyer et tout, les pinceaux, ça m'a saoulé, donc je me suis dit
le sport c'est plus simple, une douche et c'est reparti.
Mais j'avoue, quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de dessin pendant très longtemps et tout, donc il faudrait que dans le temps, parce que je trouve que pareil, la lecture quand j'étais plus jeune, c'est un truc que je suis une personne assez créative et que j'applique ma créativité dans la production de mon contenu, mais plus dans des loisirs et dans mon quotidien, parce qu'on a vite quand j'ai une demi-heure ou une heure de temps libre, je vais être sur TikTok ou je vais aller boire un verre. Je vais pas me poser dans mon appartement et écrire mes pensées. J'aimerais bien plus accorder du temps à ce genre de...
En fait, il faut que tu accordes du temps si tu penses que c'est... Enfin, si t'en as vraiment envie.
Je pense que ça me ferait du bien, tu vois. Mais...
Moi, je suis contre les injonctions au dev perso, les injonctions au bien-être. Vraiment, et c'est ce qu'on essaye de partager de ouf ici, tu vois, dans le programme qu'on sort sur Take Care, là. L'idée, c'est vraiment pas de se dire, il y a une méthode ou il y a une recette, la Miracle Morning et tout. Franchement, c'est pas possible. Je veux dire, on est trop d'individus, on est trop d'individualité, de tempérament, pour se dire qu'il y a un truc qui ferait que ça fonctionne pour tout le monde. Je pense que le plus important, c'est la plus grande recherche et le plus gros process, c'est de se demander ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qui me nourrit, ça nourrit quelles valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Et ça, tout ce cheminement-là, quand on parle d'introspection, de trucs, t'as l'impression qu'il faut que tu sois vidé de tout, que tu manges des légumes, que t'écoutes des moines chanter. Non, mais en fait, si ça, c'est ton kiff, fais. Mais en soi, genre faire du sport, écouter de la musique et aller boire un verre avec ses potes, mais ça peut être la meilleure thérapie, tu vois. Et moi, je suis contre le fait, et je pense que ma team, tu me rejoins là-dessus, chercher des problèmes ou pour chercher des problèmes. Et tu dis souvent, tant que ça ne fait pas souffrance.
Oui, le meilleur indicateur, c'est toi. C'est-à-dire que déjà, mais tu l'as déjà dit, il y a des moments où t'es pas bien, mais c'est normal. Je veux dire, n'importe quel individu sur cette planète a des moments de bien et des moments de pas bien, ça fait partie. Il n'y a pas d'émotion agréable sans émotion désagréable. En fait, l'une ne va pas sans l'autre, et c'est complètement ok.
Et quand t'es plat, t'es mort. En fait. C'est
horrible. Quand
t'es plat,
t'es mort. Oui. Wow, merci. Un électrocardiogramme à plat, effectivement, vois, c'est que le cœur ne bat plus.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Mais par contre,
mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre des énormes moments de passion?
Non, vivre, absolument pas. Mais
non, il faut avoir des hauts et des bas. C'est normal.
Mais en fait, les hauts et les... enfin, l'humeur humaine, enfin voilà, a des variations. Voilà, a des variations en fonction de plein de choses. Dans la mesure où c'est pas des variations complètement extrêmes,
ça t'handicape pas,
etc. Que t'as pas des grosses difficultés de gestion émotionnelle, qui font que t'arrives plus à gérer tout ça. Bah, en fait, c'est complètement ok. C'est normal d'avoir des moments de moins bien. Mais par contre, effectivement, il y a pas de recette. Enfin, je veux dire. Les meilleures choses que tu mettras en place, c'est les choses qui sont le plus alignées avec toi et qui sont ok. Il y a des personnes qui, par exemple, tu vas leur dire, tu es pas bien, mais va faire du sport. Et ils vont te dire, mais moi, j'en ai rien à carrer du sport. Et donc, si t'en as rien à carrer du sport, ben, va pas faire du sport, effectivement, parce qu'on s'en fout.
Mais c'est un peu déculpabilisant comme propos. Ça fait plaisir d'entendre, moi, ça me fait du bien de dire. Oui, mais si ta façon de dealer avec les choses, c'est pas de faire de la méditation et tout, c'est pas parce que tu te caches quelque chose, c'est que...
Ah non, il y a des gens qui vont kiffer la méditation, et il y en a d'autres qui... Enfin, moi, par exemple, je parle de ce que je connais, mais dans ma pratique, en tout cas, quand il y a des patients qui me disent « Moi, en fait, là, ce que vous me proposez, ça, c'est pas en lien avec moi », et bien, en fait, ok, on passe à autre chose. Ouais, enfin, on va pas pousser, c'est pas parce que...
Tu leur dis pas, alors c'est que vous allez encore plus mal.
Alors, en fait, c'est beaucoup plus profond, on va en avoir pour 10 ans. Non, pas du tout. C'est que peut-être que là, sur le moment, c'est parce qu'il faut à la personne et on va trouver ce qu'il lui faut. Mais, du coup, en fait, ça laisse un champ d'action qui est du coup infini. Et du coup, tu peux complètement te créer ta façon à toi d'aller mieux. Mais par contre, il y a un truc que je retrouve beaucoup dans ton discours et qui est hyper important, c'est que tu t'écoutes en fait et que tu acceptes les moments où tu vas pas bien et que ces moments-là, ils sont complètement acceptés. Et que parfois, ces moments-là où on va pas bien, c'est juste un moment qui nous permet de nous réadapter pour créer autre chose ensuite et aller mieux aussi. Et en fait, ces moments-là, ils sont complètement... Enfin, ils sont tout aussi importants que les moments où on va bien. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on a une émotion... on s'adapte. C'est-à-dire que nos émotions, elles nous servent à nous adapter et à passer à l'action. J'ai pas du tout le même comportement quand je suis joyeux que quand je suis triste. Mais à un moment donné, quand je suis triste, c'est parce qu'il y a une situation où il y a quelque chose qui fait que je suis triste. Donc je vais avoir un certain comportement. Et ce comportement-là va me permettre ensuite d'avancer, de trouver des réponses à mes questions et d'engager
il
d'autres
adapté,
choses.
Tu vois, si t'es mort de rire à un enterrement, tu vois ce que je veux dire, c'est je veux dire,
ça arrive.
C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, c'est adapté à un moment. Et je veux dire, il y a pas de... alors nous on dit souvent, il y a pas de hiérarchie des émotions. Genre, c'est je veux dire, la tristesse,
pas mieux d'être joyeux que d'être triste,
fait. C'est une émotion qui se vit au moment où tu la vis. Et franchement, moi, pour être de plus en plus dans le dev perso, dans tous ces trucs, je le disais à Mathilde, on en parlait, c'est justement un des sujets d'un des prochains podcasts, c'est que plus t'es en introspection, dans le sens où tu te connais et t'apprends ce qui est important pour toi et à poser tes limites et tout, plus tes moments down, en tout cas moi c'est comme ça que je... vraiment c'est beaucoup
parce
plus court
parce que t'es vraiment confronté à ce qui va
je vais au fond du truc et je peux chialer comme pas possible, ça va durer peut-être 24 heures et j'ai besoin de pleurer parce que moi j'adore pleurer, je pleure pour tout et rien, je vois un petit couple de papy mamie dans la rue, style la main, je pleure, enfin tu vois, vraiment genre cancer vibes. Vraiment. Et
moi je trouve que c'est très bien, je comprends pas le jugement sur les pleurs, laisser les gens pleurer.
Non, mais surtout, en fait, moi je vais désacraliser les pleurs. Le pleur, c'est une réaction physiologique de ton corps.
Ouais.
T'as une émotion, tu pleures pas du tout parce qu'on pleure pas à toutes les émotions. Mais en tout cas, si t'es triste ou il y a d'autres émotions sur lesquelles tu peux pleurer, ton corps réagit et c'est de pleurer. Mais comme quand t'es anxieux, tu vas plutôt transpirer, avoir le cœur qui bat, plutôt en tension, hyperventilé, etc. Quand t'es triste, a priori, tu pleures, mais c'est normal.
En fait, je pense que tu galères plus à lutter tu vois, contre ce qui t'arrive, que de quand t'es dans l'accueil du truc et du fait que bon bah ça va passer, comme tu dis, c'est un moment de transition.
Mais surtout que c'est pas parce que tu luttes à pleurer que t'es pas triste. Ouais, ça t'empêche pas d'être triste, bien au contraire, en fait.
Des gens qui ne pleurent jamais.
Oui, mais je pense que c'est la peur de soit de faire face à ses émotions, soit de faire face au jugement des autres. Et
oui,
aux...
généralement, c'est intériorisé comme quelque chose de.
Et encore plus quand t'es un mec, il faut le dire.
Pleurer
quand t'es un homme
et
que tu
aussi
pleures.
Leurs injonctions.
Je suis faible.
Ouais, c'est fou. Hein.
Et non,
mais
les
non,
filles adorent les hommes qui pleurent.
Donc, oui, le pleur, ça veut rien dire de plus que t'as une émotion et ton corps le traduit comme ça. Voilà, et en fait. Le corps a littéralement besoin d'évacuer l'émotion parce que sinon ça te fait une espèce de tension au niveau de ton corps et qui reste.
Dans la gorge, tu vois.
Et en fait, c'est comme une cocotte minute que tu laisses brûler et que tu mets un couvercle dessus. Ouais. Au bout d'un moment, ça pète. Mmh.
Il vaut mieux éteindre le feu.
Voilà.
Wow. Sur cette belle métaphore.
C'est pas du tout
c'est
de
beau.
Moi. Je pense que c'est d'Isabelle Fiozac en parlant des enfants qui disaient ne mettez pas un couvercle sur le lait qui boue, éteignez le feu. Bon, ben voilà, je pense que ça s'applique finalement aux grands enfants que nous sommes. Merci beaucoup, Anna, pour cet échange
Qui
est parti. Ouais, et tu sais que ça fait déjà une heure.
C'est non, je suis super
comme
déçue.
Ça passe vite. Tu avais un petit mot à rajouter?
Non, bah merci les filles. Je trouve ça pas mal de le fait que je parle un peu de mon expérience de vie et que je raconte un peu ce que je fais dans la vie et ce que je vis au quotidien, et en même temps de l'analyser, de parler de trucs qui peuvent concerner tout le monde et que c'est pas juste une interview, tu vois, où tu vas me faire parler de trucs bateaux de ma vie. Donc j'ai bien aimé le fait de mélanger les deux.
Tu es une humaine comme les autres finalement.
Et oui.
On finira là-dessus.
Merci
beaucoup et à très vite pour un prochain épisode.
À bientôt.
Au revoir.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.